J'ai un peu mieux compris pourquoi l'hôpital d'Eure, qui fait partie de l'EPS Alsace Nord, s'appelle La Colonie, avec un grand K, évidemment. Et donc, c'est le nom du banc communal sur lequel est encore implanté l'hôpital, hein, donc dans la banlieue de Strasbourg. Donc voilà, La Colonie. Et je vous signale qu'il y a un éminent historien du site de l'hôpital de Heurte dans la salle qui est en train d'écrire un bouquin sur justement l'histoire de l'hôpital. Donc en sachant que l'Alsace était évidemment allemande donc à cette période-là, hein, donc après 1870 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors je sais que c'était un exercice toujours délicat pour poser la première question. J'ai fait un peu une petite transition pour susciter des questions. Qui souhaite intervenir, s'il vous plaît? Donc, Jo, tu as compris là, qu'on a parlé de ton établissement. Donc, il y a quelques intervenants. Non, tu avais dormi. Hein. Y a-t-il une question? Oui. Docteur Cougitou, président de la CME de mon établissement. Oui, je vous demanderai peut-être aussi de vous présenter, hein, parce que je ne connais pas tout le monde, hein. S'il vous plaît.
Oui, simplement, pour ce qui concerne les flux d'idées entre la France et l'Allemagne, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à faire parfois des anachronismes? Est-ce qu'on ne devrait pas parfois parler de l'Allemagne, la Prusse, l'Allemagne, la Bavière?
Oui, vous avez raison. Là, on est, si vous voulez, on est sur quand j'évoque les influences allemandes sur la France, on est déjà dans l'Allemagne, dans l'unité allemande, hein, donc depuis 1870. Donc finalement, là, il n'y a pas d'anachronisme à faire. Il y a évidemment différents modèles allemands. Ça c'est clair, et Sérieux visite, je crois, 4 ou 5 établissements, pas plus, donc j'imagine qu'il n'a pas tout vu, mais il fait référence, lui, à un modèle allemand, très clairement.
Je ne suis pas sûr d'avoir très très bien compris la différence entre la colonie à l'allemande et à la colonie à la française, dans les différentes spécificités.
J'étais un peu vite là-dessus. En fait, alors, il y a la colonie à la belge, si vous voulez, qui est le système nourricier, très peu d'architecture psychiatrique, juste un petit pavillon central et puis des maisons. Ça, c'est la colonie belge, en quelque sorte. La colonie à l'allemande, en fait, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a deux systèmes différents, un pour les aigus, dans lesquels il y a un hôpital, et encore, c'est même différencié, puisqu'il y a parfois des cliniques et qui sont souvent liés au monde universitaire en Allemagne, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Donc, en Allemagne, vous avez un lieu pour les aigus et un lieu pour les chroniques, dans lesquels il y a finalement une mise au travail agricole des individus. Pour l'asile à la française, le terme « colonie », il va désigner deux choses différentes. C'est ça qui est un petit peu difficile. Il désigne des établissements particuliers construits à la fin du XIXe siècle qui sont là pour délester la population parisienne et qui ressemblent à ce qu'on fait en Belgique, c'est-à-dire dans lequel il y a un placement familial des aliénés. Et le terme « colonie », il désigne aussi des annexes agricoles des grands asiles français, qui se développent à partir des années 50-60 et qui sont finalement pas des architectures psychiatriques spécifiques, mais on en a par exemple la colonie de Fitzjames pour le grand asile de Clermont-de-l'Oise, ce genre de choses, ce sont des annexes agricoles où on met au travail en quelque sorte, à des fins thérapeutiques mais aussi à des fins de fonctionnement de l'institution, ces aliénés. Donc c'est un terme qui a deux réalités.
Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui. Docteur Thévenon?
Oui, docteur Thévenon. Il marche là, ou... Oui, d'accord. J'étais très intéressée par votre présentation, monsieur. Pour ma part, j'ai toujours travaillé dans des USN qui doivent avoir été installés dans les années qui suivent ce que vous avez présenté. Est-ce qu'on a fondé les USN, les unités de soins normalisés, par souhait de rapprochement avec les hôpitaux généraux, ou est-ce que vous avez une autre explication?
qu'est-ce que vous appelez USM déjà ?
Il s'agit d'un programme architectural de psychiatrie.
Qui est très récent. Ouais.
Des années 78, ouais. 60 par là, 70-78. En fait, c'est un terme d'architecture, ça ne s'adressait pas forcément à la psychiatrie. Hein, ça a été une forme de rationalisation peut-être d'économie, j'en sais pas plus, c'est pour ça que je vous posais la question.
Non, moi j'ai arrêté, si vous voulez, mes recherches aux années 70, ça devenait très difficile à partir, je dirais, de la fin de la diffusion de l'hôpital village. Ça devenait très difficile pour moi de savoir où chercher les informations. Ce ne sont plus les mêmes producteurs d'informations. J'ai pas pu continuer au-delà, si vous voulez, des années 70. Donc je suis complètement ignorant de ce programme et de sa diffusion. Je suis désolé.
Au-delà des années 70, effectivement, les USM sont les unités soit normalisées, calquées sur le MCO, qui ont été implantées dans des hôpitaux psychiatriques traditionnels, comme Charles Pérez, par exemple. Voilà. Ce sont des blocs avec des unités au départ de 50 lits, avec des chambres, avec des chambres classiques. Voilà. Donc je vais monter le ton un peu. Donc voilà, c'était le 100 monobloc, 120 lits, avec des constructions précontraintes. Voilà, c'est un programme national qui a été implanté un peu partout.
Oui, et donc en contrepoint de ce qui se faisait donc justement dans les hôpitaux généraux, et on appelait ce que tu as dit, et le concept c'était les constructions hospitalières type, les fameux CHT. Oui, mais pendant la même période, donc il y avait les CHT, pour les hôpitaux généraux aussi. Hein.
Oui, c'est un moment d'angoisse hospitalière où il n'y avait plus assez de... Enfin, on a considéré que les capacités étaient insuffisantes et a lancé un appel d'offres à la fois pour les personnes âgées, qu'on appelait à l'époque les vieillards, V120, V60, V300 et quelques, car on a construit effectivement des unités préparées. Il y a un appel d'offres qui a été attribué à quatre grands architectes, grands maîtres d'œuvre au niveau national. Et il y avait donc les P. Heureusement, l'appellation n'est pas restée. P pour psychiatrie, P120, etc. Donc les U... Mais par contre, les sigles USN sont restés dans l'habitude, de même que les V120, ce qui veut dire quand même vieillard 120 lits. On n'a pas trouvé l'appellation vieillard. Désolé, Antoine. Vieillard 120 lits. Et il y avait aussi les H, dont l'hôpital de Quimper. Il y a des établissements qui, effectivement, ont été lancés sur cet appel d'offres général, évidemment avec une normalisation architecturale. On a oublié l'architecture locale, sauf peut-être pour la toiture. En Vendée, on mettait des tuiles, et en Bretagne, l'ardoise. Et puis peut-être partout ailleurs, la toiture était plate, y compris dans le Nord, et c'est pour ça que ça coule. Donc, effectivement, il y a tout un appel d'offres général. On a fait beaucoup d'économies. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les directeurs d'hôpitaux étaient obligés de construire l'USN, et les appels d'offres et l'installation étaient absolument obligatoires.
Cadrés. Hein.
Ça s'est passé en 6 mois. Enfin, il y a eu une accélération de
ces... Fontenoy, hein, tout à fait.
Effectivement, ce qu'on peut rappeler aussi...
Les uns après les autres, s'il vous plaît.
Ce qu'on peut rappeler aussi par rapport à cette époque, c'est que...
Merci.
Ce qui était le plus industrialisé du total, c'était plus la procédure que la technique de construction proprement dite. Mais effectivement, les procédures sont allées très rapidement. Et puis, dans le domaine spécifique de la psychiatrie, le cabinet d'architectes lauréat de cette branche du marché, qui était Kornilov et Felouza, ça y est, ça me revient, et qui avait aussi des interlocuteurs au ministère pour la conception, simplement, il avait été tout bêtement oublié que parfois en psychiatrie, il arrive d'hospitaliser des personnes sans leur consentement. Et donc, il y avait conflit au moment des ouvertures et des passages des commissions de sécurité entre les pompiers qui voulaient qu'on puisse sortir facilement et puis les nécessités effectivement de sécurité par rapport à des personnes hospitalisées d'office. Ce qui a fait que dans un certain nombre de cas, et je pense en particulier au service universitaire du CHU de Clermont-Ferrand, ce service n'a eu d'habilitation que pour recevoir des personnes en service libre. Il y a même eu un contentieux là-dessus.
Merci. Docteur Abrieux, vous souhaitiez aussi intervenir, et je vous demanderai peut-être, Mme Bourgeois, Docteur Massili, de nous rejoindre, s'il vous plaît.
Oui, donc Alain Brieux, en fait, la réponse dont vous êtes apportée, c'était pour les USN. Et donc, je ne vais pas rajouter ce qui a déjà été dit, si ce n'est que c'est très, très intéressant de reprendre l'histoire et on voit ce qui paraît des fois très moderne et finalement très ancien, parce que quand on voit ce que Parchap propose, c'est des classifications furieux, tranquilles, agités, etc. On peut mettre d'autres classifications dites plus modernes. Et puis, la référence à la statistique était aussi quand même très, très intéressante. Donc, ce qui est renvoyé par l'architecture, c'est effectivement très... en symétrie avec ce que pense la société et la communauté médicale ou soignante de l'époque. C'est très, très théorie dépendante, enfin approche dépendante. Et c'est intéressant aussi de voir comment la nomination et le langage est quand même très intéressant, parce qu'une idée de soins normalisée, ça vaudrait le coup qu'on discute sur ce que c'est que cette normalisation. Et puis, on fait que l'historique de l'appellation, ce qui a été rappelé notamment sur les V120, parce qu'après, on ne sait plus, comme il y a beaucoup d'acronymes, on ne sait pas à quoi ça correspond. Je me souviens quand j'étais interne à APT, et j'allais faire dans la psychiatrie de liaison, j'allais au V120, donc je voyais des patients, et à l'époque, j'avais pas encore le virus de l'intérêt par rapport vraiment au langage, et c'est vrai que je me demandais pas que c'était V120, et c'est vrai que c'est à un moment donné, quand il y avait un petit peu après, regardez, quand on voit que ça avait vieillard, 120, enfin, le nombre de jours, c'est très très intéressant de savoir ce que ça signifie les acronymes.
Bien, merci pour ce complément d'information. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier, monsieur Guillemin. Donc, non sans rappeler que vous resterez avec nous pour la journée et que nous verrons l'ensemble des intervenants, comme le rappelait notre président tout à l'heure, lors de la table ronde en fin de journée. Donc, je prie Madame Bourgeois, le docteur Marcilly, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc vous avez déjà noté que les Lillois Armentières est représenté en force, pas forcément imposé par son président, notre président quand même, n'est-ce pas, Joe?
Pas imposé du tout.
Non, pas du tout. C'était une plaisanterie. D'autant plus que, donc avec une équipe de mon établissement, on a eu l'occasion de visiter, le docteur Thévenon, il reviendra tout à l'heure, ce qui sera présenté après la pause à Tourcoing. Madame Bourgeois, docteur Massini, merci de nous avoir rejoints. Merci d'ores et déjà pour votre intervention. Donc là aussi, je vous ai rappelé que vous avez un temps imparti. Et donc, on a pris un peu de retard. Donc, si vous arrivez un peu à concentrer, alors je vous plaisantais tout à l'heure en disant, voilà, pour un psychiatre italien ou italien psychiatre, restez concis, etc. Voilà, on peut décaler la pause jusqu'à 11h, hein, le cas échéant. Très bien. Mais bon, si on arrivait à rattraper un peu de temps, ça serait pas mal. Et merci par avance.